Notre rendez-vous quotidien avec l'information et le journal de la rédaction. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Nicolas.
Au sixième mois de la guerre entre Israël et le Hamas, la communauté internationale redouble d'efforts pour parvenir à une trêve face à la catastrophe humanitaire en cours à Gaza.
Washington a pour la première fois annoncé un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat. On tâchera de comprendre ce changement de position radical des États-Unis, alliés historiques de l'État hébreu. Comment utiliser les profits exceptionnels générés par les avoirs russes gelés en Europe pour renforcer l'arsenal ukrainien? Ce sera l'une des nombreuses questions sur la table du sommet européen organisé aujourd'hui et demain à Bruxelles. On en parlera avec notre invitée Sarah Brimboeuf, spécialiste des flux financiers. L'actualité en France également, avec tout d'abord ces menaces d'attaques terroristes contre une vingtaine de lycées d'Île-de-France dont la nature reste encore à déterminer. À suivre également les sueurs froides du gouvernement. Depuis ce matin, le Sénat examine le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada avec un rejet possible qui mettrait en péril la ratification de cet accord décrié. Enfin, si la France a certes accéléré sa réduction des gaz à effet de serre, elle reste, on le verra, en dessous de l'objectif fixé par sa feuille de route. Porter un masque dans les lieux publics ou en présence de personnes fragiles, éviter les contacts physiques et se laver les mains régulièrement. Toutes ces recommandations se rappellent évidemment à notre mauvais souvenir, pas si lointain, de l'épidémie de Covid-19. Et c'est encore le meilleur moyen, en l'occurrence, de se protéger de la flambée d'une maladie mangeuse de chair mortelle qui inquiète aujourd'hui le Japon, désormais en alerte rouge dans 27 des 47 départements de l'archipel. Après avoir découvert, c'était l'été dernier, des formes sévères d'infection invasive à streptocoque A, le pays s'inquiète à présent d'une recrudescence depuis le mois de janvier du nombre de cas de ce syndrome grave dû à des bactéries carnivores du jamais vu au Japon. C'est une correspondance à Tokyo signée Karine Nishimura.
La bactérie s'appelle Streptococcus pyogène et elle n'est pas rare. On peut la trouver couramment dans la gorge ou sur la peau de personnes saines, mais elle peut aussi entraîner des infections graves et invasives, parfois accompagnées d'une défaillance multiviscérale dite syndrome de choc toxique streptococcique ou STCS. Ce sont ces cas rares, dus à la fabrication d'une toxine par cette bactérie, qui ont augmenté l'an passé au Japon et encore plus depuis ce début d'année, puisque déjà 474 malades ont été recensés, soit en moins de 3 mois, la moitié du total constaté sur toute l'année 2023. La mortalité des SCTS est de l'ordre de 30%, d'où la volonté des autorités de prévenir les infections invasives et d'en mieux comprendre l'origine. La fin assez récente du port généralisé du masque dans l'archipel peut expliquer en partie ce phénomène accentué, comme cela a pu être le cas après la fin des mesures Covid plus tôt dans d'autres pays.
S'il n'a pas fermé la porte à des négociations, rien en revanche n'indique jusqu'à présent que Benjamin Netanyahu compte changer son fusil d'épaule. En l'occurrence, non seulement les bombardements se poursuivent sans répit à Gaza, mais le premier ministre israélien se refuse toujours par ailleurs à ouvrir des corridors humanitaires pour la population civile, et ce en dépit de la pression internationale de plus en plus forte pour stopper ce désastre humain. Hier, et pour la première fois depuis le début de la guerre, les États-Unis, alliés historiques d'Israël, ont même annoncé un projet de résolution à l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Jusqu'à présent, Washington avait toujours mis son veto à chacune des résolutions du Conseil de sécurité appelant à une trêve. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis l'administration Biden?
Écoutez, il y a sans doute une exaspération croissante à la Maison-Blanche sur la façon dont Israël mène la guerre, compte tenu du bilan humain effroyable, près de 32 000 morts, en grande partie des enfants, et d'un risque de famine imminent dans l'enclave palestinienne. Et puis, il y a la volonté exprimée de Benjamin Netanyahou de lancer une ultime offensive contre Rafah à la frontière égyptienne. Or, Joe Biden veut le dissuader de mener cette opération, d'où cet activisme diplomatique américain avec cette proposition de résolution à l'ONU qui se veut un signal fort, selon l'expression d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain actuellement dans la région. On sait aussi que les rapports entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu sont exécrables. Signe de son irritation, le président américain a littéralement convoqué à la Maison-Blanche le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, qui doit se rendre à Washington la semaine prochaine. Joe Biden veut faire entendre raison aux Israéliens à tout prix. D'abord parce qu'il constate l'isolement diplomatique croissant de l'État hébreu dont il est proche. Et puis, le président démocrate est en pleine campagne pour sa réélection. Or, la communauté arabo-musulmane américaine est vent debout contre ses positions dans la guerre à Gaza. Et Joe Biden sait que chaque voix comptera dans sa bataille électorale contre Donald Trump en novembre prochain.
Merci Christian Chesneau.
Après 44 jours de pause, la Russie a lancé ce matin une nouvelle salve de missiles contre la capitale ukrainienne.
31 au total, tous ont été abattus par la défense antiaérienne. En revanche, la chute des débris a fait 13 blessés, endommagé plusieurs bâtiments résidentiels et industriels. Hier déjà, Kiev et Moscou avaient fait état de frappes mortelles, cette fois-ci de chaque côté de leur frontière commune, où les bombardements se sont multipliés ces dernières semaines. Et c'est donc dans ce contexte, face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante, que les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui et demain en sommet à Bruxelles avec l'objectif de mieux armer l'Ukraine. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Sarah Brimboeuf, responsable du plaidoyer grande corruption et flux financiers illicites à l'ONG Transparency International France. Bonjour madame.
Bonjour.
Hier déjà, la Commission européenne a présenté un premier plan qui propose d'utiliser les revenus générés par les actifs russes gelés en Europe afin donc de verser jusqu'à 3 milliards d'euros annuels à l'Ukraine. Concrètement, de quoi la Commission parle-t-elle lorsqu'elle se réfère à ses avoirs? Est-ce qu'il s'agit d'argent?
Alors, il faut comprendre que les États membres de l'Union européenne ont, depuis le début de la guerre, depuis février 2022, gelé près de 200 milliards d'actifs appartenant à la banque centrale russe, donc 200 milliards de titres financiers. Il faut savoir que ces biens sont gelés, donc la propriété n'a pas été retirée, ils demeurent propriété de l'État russe. Le gel, c'est une mesure politique qui vise à être levée à un moment donné, à la fin de la guerre, à plus ou moins long terme. Ces avoirs, ces titres financiers sont immobilisés actuellement au sein de Euroclear, qui est une société basée à Bruxelles, dépositaire de titres financiers. Et comme tous les titres financiers, gelés ou pas, ils continuent à travailler, ils produisent des profits, des intérêts en fonction des taux en vigueur. Et pour 2023, les profits estimés sur la base de ces 200 milliards d'actifs sont estimés à 4 milliards. Donc ce que la Commission européenne propose, c'est de taxer ces profits, et non pas se taxer ses profits à hauteur de 97% pour les réaffecter au bénéfice de l'Ukraine, à la reconstruction ou au financement de l'effort de guerre.
Vous l'évoquiez, la Commission explique vouloir orienter vers le soutien de la guerre en Ukraine les intérêts produits par ces avoirs russes. Comment se fait-il que ces actifs gelés donc continuent de produire des intérêts ?
Alors, les intérêts ne retombent pas dans les poches, eh bien, de leur propriétaire, hein, la Fédération de Russie, mais ils continuent leur vie d'actifs et donc le gel n'a aucun impact sur la production d'intérêts. Ce qui est important de souligner, c'est que c'est s'intéresser aux intérêts et non pas au capital, ça a un impact majeur puisque les intérêts ont choisi de taxer les profits générés par un opérateur privé, la société Euroclear basée à Bruxelles. On ne s'attaque pas au capital qui demeure propriété de l'État russe, c'est-à-dire qu'on évite des enjeux, des obstacles de diverses natures, juridiques, politiques et financiers qui pourraient mettre à mal ce genre, la décision d'utiliser l'ensemble des actifs.
Raison pour laquelle donc, on parle bien d'avoir gelé et non pas confisqué ou saisi. Si le plan proposé donc, aujourd'hui entre en vigueur, est-ce que la somme dégagée sera versée directement à l'Ukraine ?
Alors, ça passera par non. La somme ne sera pas versée de voilà, ça ne sera pas un chèque. Ça passera par des fonds qui ont été mis en place par l'Union européenne. Il y a tout un circuit financier. Il y a aussi des enjeux de traçabilité des fonds. On connaît le contexte difficile. Ce reste des sommes d'argent importantes. Donc, il y a toute une architecture qui existe, qui sera en mesure, de faire circuler ces fonds une fois que la position sera assise aujourd'hui et demain lors du sommet des dirigeants européens.
En orientant les revenus donc des avoirs russes gelés vers le conflit en Ukraine, ce sont 3 milliards d'euros supplémentaires par an qui pourraient être versés, soit finalement une somme assez faible au regard de ce que représente l'effort de guerre. À titre de comparaison, l'aide bloquée par le Sénat américain porte sur 60 milliards. Dans le même temps, de nombreuses voix s'élèvent pour demander de saisir directement les 200 milliards d'actifs gelés au total afin de les utiliser pour financer donc la défense ukrainienne. Est-ce que l'Europe a théoriquement les moyens de faire cela ?
Alors, s'attaquer au capital, aux 200 milliards d'actifs, en effet, la somme, elle est plus intéressante que les intérêts qu'ils produisent. Néanmoins, ça pose des obstacles juridiques. On est quand même dans un cadre de droit international. Il y a le droit de la propriété, le droit de l'immunité des États souverains. Ça pose aussi des risques politiques. Comme vous le disiez, les États-Unis sont partisans de saisir le capital, de confisquer le capital. Mais s'ils le faisaient, ça serait la première fois que les États-Unis, que Washington confisquerait les actifs d'un État tiers. frontières sans être entrée en déclaration de guerre avec cet État. Et enfin, des enjeux financiers, ça pourrait effrayer certains autres investisseurs qui n'ont rien à voir avec la Russie, mais qui pourraient se dire que leurs actifs ne sont plus en sécurité en Europe. Donc, une décision qui pourrait être coup de poing et annonce pourrait être fragilisée sur ces trois terrains ultérieurement, ce qui, symboliquement, serait pas forcément une bonne chose.
C'est noté. Merci Sarah Brimboeuf, responsable, je le rappelle, du plaidoyer grande corruption et flux financiers illicites à l'ONG Transparency International France d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aloïse Guérin pour la préparation.
Sa décision hier a pris tout le monde par surprise.
Oui, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a annoncé sa démission. Celui qui en 2017 était devenu le plus jeune chef du gouvernement du pays invoque des raisons à la fois personnelles et politiques. Voilà plusieurs mois déjà en réalité que les signes du déclin de son autorité se multipliaient. Les prochaines législatives sont prévues au printemps 2025, mais déjà l'opposition appelle à les anticiper. Lui s'apprête à prendre les rênes d'un exécutif instable, Luis Montenegro. Improbable champion de la droite aux dernières législatives, a été nommé dans la nuit Premier ministre du Portugal. Il devra former un gouvernement minoritaire et surtout composé avec une extrême droite en très nette progression. Carles Puigdemont sera-t-il candidat aux prochaines régionales en Catalogne? L'indépendantiste doit se prononcer aujourd'hui, une décision qui, le cas échéant, pourrait accélérer son retour en Espagne plus de 6 années après son départ en exil au lendemain de la tentative de sécession avortée des séparatistes.
Vous écoutez France Culture. Il est 12h41, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
La sécurité a été renforcée ce matin aux abords de plusieurs lycées d'Île-de-France après qu'un mail a été envoyé hier après-midi aux élèves de plusieurs établissements scolaires annonçant un attentat islamiste. Célia Gutti, bonjour.
Bonjour.
L'auteur de ce message, toujours recherché par les forces de l'ordre et qui dit vouloir agir au nom de Daesh, a piraté l'espace numérique de travail des lycéens avant donc de proférer, Célia, ces menaces de mort accompagnées d'une vidéo de décapitation.
Oui, j'ai mis du C4 partout dans le lycée et dans les classes. C'est le message qu'a reçu une centaine de lycéens franciliens hier et dans la nuit. La menace a été prise au sérieux. La région Île-de-France a mobilisé ses 10 brigades régionales de sécurité pour prêter main forte à la police. Sérieux, même si ce genre d'incident est de plus en plus commun. Du deuxième trimestre 2022-2023, 40 lycées ont été attaqués via l'ENT, des fois suivis de menaces. Aujourd'hui, la charge de travail est trop importante pour que l'éducation nationale demande au rectorat les chiffres. Dur de sécuriser la faille par laquelle les hackers s'en couvrent, selon Cyril Di Palma de l'association Génération Numérique, car le maillon faible de la sécurité des ENT, souvent, c'est l'humain.
C'est pas parce que les jeunes sont nés avec Internet qu'ils sont des meilleurs utilisateurs. Et pourquoi? Parce qu'on leur a pas forcément enseigné que le monde numérique, le monde en ligne, avait aussi des règles spécifiques, et notamment des règles de prudence qui passaient par des mots de passe renouvelés régulièrement, différents d'un site à l'autre, des mots de passe qui peuvent être compliqués. On peut noter que leurs comportements sont de plus en plus sécurisés en ligne. Par exemple, ils sont de moins en moins nombreux à avoir communiqué leur mot de passe à quelqu'un d'autre. Ça paraît un peu aberrant pour nous adultes de se dire « mince, je donne mon mot de passe à quelqu'un ». Mais pour un ado, c'est pas la même mécanique. Ils sont dans une relation de pair à pair qui, parfois, les pousse à communiquer ces données pourtant très très sensibles.
Cyril Di Palma le rappelle tout de même, dans cette affaire, les élèves sont victimes. Chaque piratage permet souvent de voler leurs données personnelles.
Merci Célia Gutti.
C'est un coup de tonnerre politique.
Voilà comment le groupe communiste présentait le débat avant même qu'il ne débute tout à l'heure au Sénat. La Chambre haute doit se prononcer sur le traité CETA de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, appliqué provisoirement depuis 2017, mais qui n'a jamais été ratifié complètement par la France, et pour cause, puisqu'il n'a jamais été soumis aux sénateurs. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
En direct du Palais du Luxembourg. Alors, il se trouve que les communistes ont rivalisé d'ingéniosité pour inscrire dans leur propre temps parlementaire ce projet de loi du gouvernement. Et grâce à l'appui annoncé de la droite, eh bien, ils devraient, Rosalie, parvenir à leur fin dans les toutes prochaines minutes.
Oui, il reste encore 2 interventions avant le vote, mais il n'y a effectivement pas beaucoup de suspense. L'exécutif s'attend d'ailleurs à ce revers, dénonçant d'entrée de jeu.
Une manœuvre grossière. Une manipulation inacceptable.
Le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, aura tenté jusqu'au bout de convaincre, notamment les sénateurs de droite.
Ne tombez pas dans le piège d'une alliance incongrue et contre nature avec les communistes, qui vous verrait renier vos principes au prétexte de répondre à la colère que peuvent susciter certains autres traités. Mettez la campagne des élections européennes entre parenthèses le temps d'un vote. N'entraînez pas notre pays sur la voie du repli.
Des mots qui n'ont pas mis les LR dans les meilleures dispositions, le président du groupe de droite, Bruno Retailleau.
J'ai trouvé franchement vos propos caricaturaux. Vous n'avez cessé de nous donner des leçons. Mais si le Parlement, le Sénat, avait été respecté aujourd'hui, nous n'en serions pas là.
Droite et gauche déroulent leurs arguments, dénoncent le traité autant que le refus de l'exécutif de l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat depuis toutes ces années. Satisfaction déjà là-dessus du communiste à l'origine du coup du jour, Fabien Gay.
Déjà, c'est une reprise en main, c'est une victoire démocratique pour celles et ceux qui luttent contre ces traités. Et puis la deuxième chose, nous pensons que ça sera un coup de tonnerre politique, et tant mieux, et un grand débat citoyen doit s'ouvrir en France et au sein de l'Union européenne.
La question maintenant, c'est quelle suite pour ce texte après ce passage au Sénat. Le groupe communiste à l'Assemblée se dit déjà prêt à l'inscrire sur son temps parlementaire à 10 jours des européennes, avec là encore un sérieux risque de rejet qui n'oblige en rien le gouvernement, en tout cas légalement.
Merci Rosalie Lafarge en direct du Sénat avec Christophe Papon pour les moyens techniques.
Réunion de crise hier soir à l'Élysée.
Emmanuel Macron recevait à dîner les cadres du gouvernement et de la majorité pour parler des mauvais sondages à 3 mois des européennes, mais aussi du dérapage attendu du déficit public, lequel nourrit un procès en incompétence budgétaire instruit par les oppositions. L'occasion de remettre le couvert avec certaines pistes déjà avancées par l'exécutif pour freiner les dépenses ou quand les finances publiques dans le rouge, ou Wafia Kenich place la question des recettes fiscales au cœur du débat.
Les finances publiques dans le rouge remettent au cœur du débat la question des recettes fiscales. Une discussion qui semble pourtant figée, tant les membres du gouvernement et le président de la République répètent à l'envi que cette majorité n'augmentera pas les impôts. Quelques voix dissonantes reviennent sur ce qui peut sembler aujourd'hui un quasi-dogme. Le président du groupe Modem à l'Assemblée, Jean-Paul Mattei. Pour le député des Pyrénées-Atlantiques, on ne devrait plus parler d'impôts, on devrait parler de contributions comme on parle de contributions sociale, pour redonner le goût du consentement à l'impôt et dédramatiser cet effort collectif et citoyen. Le parlementaire estime qu'au moment où l'on doit prendre des décisions budgétaires urgentes, peut-être même allant jusqu'à un projet de loi de finances rectificatif, on ne doit rien s'interdire et donc parler aussi des recettes. L'occasion peut-être de remettre dans le jeu les députés qui pourraient eux aussi faire des propositions pour réduire les dépenses. Mettre une taxe sur le rachat d'actions, réfléchir par exemple à une plus grande autonomie fiscale des départements, en tout cas rééquilibrer la fiscalité qui pèse aujourd'hui, selon lui, plus sur le revenu du travail que sur celui du capital. Le député en est persuadé, les efforts fiscaux justement répartis seraient tolérés. Pour le socialiste Michel Sapin, le gouvernement ne reviendra pas sur sa vision de la fiscalité. L'ancien ministre de l'économie et des finances est persuadé qu'après les élections européennes, l'exécutif finira par faire le choix d'augmenter la TVA, un impôt que l'opposition considère comme injuste, mais qui rapporte vite et beaucoup.
La France a accéléré sa baisse des émissions de gaz à effet de serre l'an dernier en recul de 4,8%, un record, se félicitait hier le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Alors il se trouve que ce matin a été publié le baromètre annuel du CITEPA, l'organisme chargé de réaliser l'inventaire de cette pollution carbone, l'occasion donc de trancher le débat récurrent entre le satisfecit du gouvernement d'un côté et puis les critiques des ONG environnementales de l'autre. Véronique Roberotte, bonjour.
Bonjour.
Première constatation, cette baisse concerne tous les secteurs.
Alors, à l'exception du transport aérien dont les émissions ont explosé sur un an, que ce soit sur les vols internationaux, plus 27% ou domestiques, plus 21%. Alors là où la baisse est le plus marquée, c'est dans la production d'énergie grâce à une production nucléaire décarbonée repartie à la hausse en 2023 et grâce aussi, mais dans une moindre mesure, une progression des énergies renouvelables en France. Dans l'industrie, des émissions baissent de 8%. La production industrielle a été réduite, notamment dans des secteurs très polluants, la sidérurgie, la chimie ou encore le ciment. Le secteur industriel fait dans l'ensemble des efforts de décarbonation, relève le CITEPA, contraint et forcé aussi du fait de l'augmentation du prix de l'énergie, du prix du gaz. Par exemple, en 2023, la consommation industrielle de gaz a baissé de 19%. Les progrès observés dans la rénovation énergétique, les efforts aussi de sobriété des ménages portent leurs fruits, mais c'est dans le domaine des transports que les résultats sont intéressants. Moins 3% donc de baisse due à un carburant cher, dissuasif, et un parc automobile plus propre, mais également, pointe le CITEPA, à une évolution des comportements, plus de sobriété, de report modal, on va plus vers le train, les transports en commun, et plus aussi de covoiturage. Sur l'agriculture, eh bien, les chiffres seront publiés plus tard, en juin, a priori. Alors maintenant, il va falloir confirmer cette lancée pour tenir son objectif de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Elle n'en est qu'à moins 29%, mais la France va devoir dupliquer cette baisse de 4,8% chaque année d'ici 2030. Alors oui, cocorico, mais cocorico, il va falloir chanter encore quelques années.
Merci Véronique Robert-Roth. On vient de l'apprendre, le plan de sauvegarde des 26 magasins Galeries Lafayette qui emploient un millier de salariés a été validé ce matin par le tribunal de commerce de Bordeaux. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec du soleil sur la majeure partie du territoire à l'exception des Alpes du Nord où le ciel sera chargé avec quelques averses orageuses. Quant aux températures, elles seront comprises entre 15 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.